Deuxième jour de notre série consacrée aux travailleurs indépendants, des médecins de ville aux livreurs, en passant par les artisans. Hier, nous sommes revenus sur l'histoire des avocats et des notaires, des professions réglementées que l'État cherche à libéraliser. À présent, place aux petits commerçants contraints de baisser le rideau au risque de mettre la clé sous la porte. Beaucoup craignent de ne pas survivre à ce deuxième confinement, malgré les aides de l'État qui se multiplient. Alors la crise risque-t-elle de frapper plus durement les petits entrepreneurs jaloux de leur indépendance, mais avides de reconnaissance? La discussion est ouverte. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous allons nous pencher sur le sort des petits commerçants et des artisans en compagnie d'Olivier Torres, économiste, professeur à l'université de Montpellier, co-directeur de cet ouvrage « Les faces cachées de l'entrepreneuriat » paru cette année aux éditions Management et Société. En compagnie également de Sophie Boutillier, également économiste, maîtresse de conférences à l'université du littoral Côte d'Opale à Dunkerque et co-autrice de « L'entrepreneur, force vive du capitalisme » paru il y a quelques années aux éditions Bénévent. À 14h50, vous avez rendez-vous avec l'actualité. Le journal de l'écho vous sera présenté par Xavier Martinet.
Si je pouvais répondre à la place du gouvernement, bien évidemment, je réouvrirais les commerces avec des mesures pour certains sanitaires renforcées, s'il le fallait. Ils sont prêts d'ailleurs. Néanmoins, d'après ce que je sens, d'après ce que j'entends, je pense qu'il va falloir espérer attendre encore un petit peu plus longtemps. C'est très dur, c'est catastrophique pour certains, parce que lorsque vous n'avez pas de recettes et que vous êtes commerçant, vous avez un statut d'indépendance, ce qu'on appelle les TNS, travailleurs non salariés, pas de recettes, pas de revenus, pas de revenus, pas de salaire. Et puis, si vous devez baisser le rideau, il vous reste des dettes, parce que vous n'avez pas de chômage. Ouais. Donc, il faut les soutenir, oui, ces commerçants, bien évidemment.
Les trois quarts des commerçants sont exploitants en nom propre. Ça veut dire qu'ils sont en faillite personnelle, que ça va les poursuivre toute leur vie, et que souvent ils ont engagé non seulement leurs économies, celles de leur famille, de leurs parents, oncles et tantes, parce qu'il y a eu un geste de solidarité pour les aider à créer ce commerce. C'est toute leur vie, et d'un seul coup, elle s'effondre.
Olivier Torres et Sophie Boutillier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, et puis Christian Baulme, président d'une association de commerçants et artisans à Bordeaux. Quel est d'abord votre regard sur la situation des petits commerçants dont beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte, Olivier Torres?
100% d'accord avec ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que alors, la situation actuellement elle est un peu contrastée parce qu'il y a des commerces alimentaires ouverts, mais les libraires, les coiffeurs, les fleuristes, tout cela sont fermés. Et il faut bien comprendre qu'un commerçant, c'est un homme ou une femme qui travaille 55 à 60 heures par semaine, et ne rien faire, c'est complètement contre nature pour eux.
Il pourrait y avoir près de 100 000 dépôts de bilan en 2021, ça c'est ce que dit la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est le double d'une année normale. Et ce qu'il faut dire, Sophie Boutillier, c'est que beaucoup de commerces ont déjà été fragilisés par le premier confinement.
Oui, effectivement, la situation est très difficile pour les petits commerçants, et en ce sens, ma réflexion va dans le même sens que celle d'Olivier Torres, puisque les petits commerçants sont des, pour la plupart, donc des entreprises personnelles, et subissent de plein fouet les conséquences financières qui peuvent leur subvenir dans le cadre de leur activité, et en particulier lorsqu'ils sont confrontés donc à une baisse voire l'arrêt de leur activité. Comme le disait aussi Olivier Torres, ça concerne principalement les activités qui sont fermées aujourd'hui, comme par exemple les salons de coiffure, les esthéticiennes et un ensemble d'autres professions donc qui ont déjà été fragilisées par le premier confinement.
Et puis surtout, c'est une période essentielle pour la majorité d'entre eux, cette période de novembre et décembre. Olivier Torres, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, les libraires, bijoutiers et magasins de jouets font près de la moitié de leur chiffre d'affaires au cours de ces deux mois.
Oui, ce qui ne fait que renforcer le climat anxiogène de ces hommes et de ces femmes. Je pense qu'effectivement, on avait fait une étude sur l'état de santé des commerçants, des artisans aussi, je les oublie pas, et puis les professionnels libéraux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un épuisement d'empêchement. C'est-à-dire un sentiment d'impuissance et un sentiment d'être coincé. Et la figure de l'entrepreneur, c'est tout l'inverse. On en parlera tout à l'heure, mais l'entrepreneur, c'est un homme ou une femme qui est audacieux, qui est dans l'action, dans l'innovation, et qui travaille beaucoup. Et là, c'est complètement à l'arrêt. Et ça, c'est complètement inédit.
On va revenir effectivement sur cette souffrance morale très forte que l'on observe de plus en plus chez les petits entrepreneurs en général, au-delà simplement des commerçants. Mais d'abord, le ministre de l'économie a annoncé une série de mesures pour soutenir ces commerçants. Un accès au fonds de solidarité, des prêts garantis par l'État, des exonérations pardon, de charges, ou encore des exemptions du paiement des loyers en accord avec le bailleur et les 20 milliards de crédits additionnels au budget de l'État votés à l'Assemblée nationale la semaine dernière sont censés être consacrés aux petits commerçants. Ça, Sophie Boutillier, c'est signe aussi de l'enjeu politique qu'ils représentent.
Oui, très certainement, mais en même temps, ce sont, disons, des mesures de courte vue, parce que de toute façon, si ce sont des prêts, il faudra les rembourser, et c'est forcément gagé sur une activité future qui risque d'être très problématique, d'autant que on voit pas trop la fin de cette crise sanitaire, même si on nous annonce des vaccins qui seront prochainement opérationnels. La situation sanitaire reste très incertaine, et c'est ce contexte d'incertitude qui, à mon avis, pèse très fortement sur la situation.
Sur cet enjeu politique, Olivier Torres, il faut rappeler que dans les années 50, le mouvement contestataire du poujadisme avait émergé autour de l'Union de défense des commerçants et artisans fondée par Pierre Poujade. C'est un tel mouvement que le gouvernement redoute aujourd'hui ?
Écoutez, moi d'abord, je voulais dire un mot sur le gouvernement. Moi, je trouve que les mesures qu'ils ont prises sont plutôt très bonnes. Et je voudrais plutôt féliciter, moi, le gouvernement, parce que je sais qu'il est de tradition chez les Français d'être un peu contestataire. Mais je voudrais rajouter un point très important, ce sont les réseaux consulaires. Les CCI et les CMA, je porte un chiffre parmi 100 à votre connaissance, les chambres des métiers d'artisanat, depuis le 5 novembre, ont appelé 850 000 artisans. C'est colossal. Et n'oublions pas aussi les réseaux intermédiaires et les corps intermédiaires. Alors oui, vous avez raison pour répondre à votre question. Ce qui est nouveau dans ce deuxième confinement, je vais dire second pour être optimiste, c'est que au sentiment d'empêchement s'est ajouté un sentiment d'injustice, de colère, parfois de haine, parce que le premier, on était tous logés à la même enseigne. C'est pas le cas maintenant. Et je prends l'exemple d'un coiffeur qui a tout fait pour sécuriser son lieu de travail, et à qui on dit, ben non, vous allez quand même fermer. Et donc ça génère ce qu'on appelle des émotions puissantes, négatives, et ce sont les grands ressorts des révoltes. Vous avez parlé de Pierre Poujade, on aurait pu rajouter Gérard Nicou dans les années 60-70. Le monde de la PME est en général inerte, sauf à des moments, il y a des irruptions qui peuvent être parfois volcaniques.
Et ce qui explique cette colère, c'est le fait que ces petits commerçants, on l'a dit, les libraires, les bijoutiers, les magasins de jouets, entre autres, supportent difficilement d'être considérés comme non essentiels, Sophie Boutillier, alors même qu'ils jouent un rôle social très important.
Oui, bien sûr, leur rôle social est primordial. On appelle souvent ces petits entrepreneurs des entrepreneurs de proximité, hein, qui sont aussi largement présents dans les centres-villes. Mais par rapport à votre discussion précédente, j'aimerais, bon, toute chose égale par ailleurs, faire un parallèle avec la situation des années 30. Parce que si on se focalise, par exemple, sur le statut particulier de l'artisan, bah, il faut savoir que c'est un statut relativement récent et qui a commencé à prendre corps dans les années 20 en France, c'est-à-dire dans une période économique difficile. Olivier Torres donc a souligné, et vous-même aussi, les mouvements poujadistes des années 50. Or, bon, dans les années 50, au contraire, on était censé être dans une période de croissance économique, mais ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que on a l'impression qu'on se préoccupe du petit commerce ou de l'artisanat lorsque l'économie est dans une phase de difficulté. Donc, c'est disons quelque chose qui me qui me frappe énormément au regard de la situation actuelle.
On voit en tout cas que le gouvernement cherche à tout prix des moyens peut-être de au moins de soutenir les commerces, mais aussi peut-être de les rouvrir. Il y a beaucoup de choses qui sont envisagées, un système de prise de rendez-vous dans les magasins, une ouverture le dimanche, des horaires élargis. Olivier Torres, c'est lié au rôle économique, politique de ces commerçants, mais aussi à leur rôle social, de cohésion sociale.
Ah ben vous savez, quand vous allez dans un centre-ville d'une bourgade, d'une ville ou même d'une grande agglomération où il n'y a plus de commerce, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. C'est même un sentiment d'insécurité qui règne. Et donc on voit bien que le commerce, par sa présence, c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'animation. Et on voit bien que le rôle des petits commerçants, au-delà de leur rôle de détaillant, qui est d'acheminer de la marchandise auprès des clients, il est aussi de faire vivre des lieux. Et les petits commerces sont partout sur le territoire national. Hein. On les trouve dans la France périphérique de Gulli, on les trouve dans les agglos, on les retrouve dans les banlieues, on les retrouve sur les littoraux, on les retrouve partout. Et les PME, voilà, c'est aussi ce rôle-là qui est extrêmement important.
Et à ce problème de la fermeture contrainte, ça joue celui de la concurrence de géants comme Amazon, qui devraient, eux, tirer profit de ce deuxième confinement. C'est une concurrence qui est considérée comme déloyale, Sophie Boutillier, à juste raison.
Oui, bien sûr, à juste raison, puisque les entreprises comme Amazon payent très peu d'impôts par rapport au poids de la fiscalité qui est supportée par les petites entreprises et les entreprises artisanales d'une manière générale. Donc, on est dans une économie mondialisée et en ce sens, chacun, disons, tire bénéfice de ce système économique de façon très très inégalitaire. Mais en même temps, on pourrait aussi, disons, s'intéresser à ce que disait aussi le ministre de l'économie, à inciter les petits commerces à développer du commerce en ligne. Bon, ce sont des choses qui existent déjà, mais qui a priori sont plutôt difficiles à mettre en œuvre. Et puis, disons, on peut pas devenir Amazon en quelques clics, ni en quelques semaines, bien sûr.
Il y a une pétition d'élus et de personnalités qui réclame un Noël sans Amazon. Olivier Torres, vous soutenez ce genre d'initiative?
Alors écoutez, vous me l'apprenez, mais en tout cas, moi j'irai même plus loin en disant que ce n'est pas une concurrence déloyale, c'est une concurrence immorale. Quand vous voyez une publicité où Amazon dit « achetez chez nous sans aucun stress », franchement, je trouve ça immoral dans le contexte actuel. Et je pense que tous ces GAFA, j'ai rien contre les grands groupes. Moi, je suis un PMiste depuis 30 ans. Je m'intéresse aux PME. Mais quand je vois ça, effectivement, je trouve que là, ils osent franchir, l'immoralité dans leur communication. Donc oui, je suis pour cette initiative.
Alors on va voir effectivement comment les petits commerçants peuvent se tourner vers la numérisation pour concurrencer ou peut-être au moins réussir à exister aux côtés de géants comme Amazon ou d'autres e-commerçants. Mais on va venir maintenant à cette détresse à la fois financière et morale de ces petits patrons. Tous les entrepreneurs, tous les petits entrepreneurs ont aujourd'hui ce sentiment, Olivier Torres, il y a une vraie inquiétude à ce sujet.
Écoutez, d'abord, un des grands résultats de l'Observatoire Amaroc que j'ai créé il y a une dizaine d'années, c'est qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. Ça, c'est un premier résultat. Mais c'est une santé qui est plus risquée. Indépendants, soit commerçants, artisans, ils ont des hauts très hauts et des bas très bas. Et là, dans le contexte actuel, vous l'aurez compris, eh bien, on est au plus bas. Et on a fait une mesure en avril 2020, lors du premier confinement, et j'ai mesuré des niveaux de risque d'épuisement professionnel, de burn-out, jamais aussi élevés, en 10 ans. Donc oui, il y a un danger d'épuisement mental. Et là où je suis plus inquiet aujourd'hui qu'hier, c'est que cet épuisement d'empêchement, j'avais dit aux médias et à d'autres organismes comme le BPI France, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que lorsque l'économie va redémarrer, le sentiment d'impuissance va s'estomper. Mais là, on repart à nouveau sur du confinement et j'ai peur qu'on rentre dans ce que les psychologues appellent une impuissance acquise, où là, le danger, c'est que si cette impuissance est trop répétée, alors carrément, ça va atrophier les capacités de réentreprendre et les capacités de rebond et d'innovation.
Mmh. C'est en tout cas pour cela que vous avez créé Amaroc, que vous avez cité, Olivier Torres, qui est donc un observatoire sur la santé des travailleurs non salariés. Par ailleurs, il y a une cellule d'écoute et de soutien psychologique aux chefs d'entreprise qui a été mise en place en avril. Mais alors, selon vous, Olivier Torres, c'est d'autant plus important aujourd'hui de parler de cette souffrance parce qu'elle est souvent occultée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, j'avais écrit dans une tribune dans Le Monde que j'avais intitulée « L'inaudible et inavouable souffrance patronale ». Alors, ça peut paraître surprenant, mais moi, je ne confonds pas l'artisan du coin avec Carlos Ghosn, si vous voulez. Et j'ai rien contre Carlos Ghosn, mais si vous voulez, il faut pas se leurrer. Faut pas confondre le petit patronat avec le grand capital. Faut pas confondre le libéralisme avec le capitalisme. Faut pas confondre une PME territorialisée avec une grande firme multinationale. Et donc, effectivement, je m'étais rendu compte que ces travailleurs non salariés, qui sont 3 millions en France, n'ont pas de service de santé au travail. Il n'y a pas aujourd'hui d'épidémiologie de santé au travail pour ces hommes et ces femmes qui créent des emplois. Or, la PME, c'est 10 millions d'emplois au total. Ce qui veut dire que le rôle social, le rôle d'employeur, il est majeur. Je rappelle que les grands groupes dont on parle tant, c'est 4,5 millions. Donc, vous voyez que le monde de la PME, c'est deux fois d'emplois en plus. Eh bien, ces hommes et ces femmes qui créent des emplois et qui innovent, eh bien, ils n'ont pas, encore aujourd'hui, à l'instant où je parle, j'espère que ça va changer, je crois qu'il y a des réformes en cours qui vont aller dans ce sens-là, on y œuvre, mais en tout cas, pour l'instant, ces hommes et ces femmes n'ont pas de service de santé au travail.
Mmh. Et puis alors, ce qui complique les choses, évidemment, Sophie Boutillier, c'est qu'il est très difficile de définir ces petits entrepreneurs. Qui sont-ils? Et d'abord, effectivement, combien sont-ils en France? On peut avoir des estimations, mais c'est assez difficile de le savoir.
Bah écoutez, moi je me concentrerai surtout sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire sur les entreprises artisanales. Donc on compte à peu près aujourd'hui 1 million d'entreprises artisanales hein, qui se répartissent en 4 grands secteurs, le BTP, l'industrie, les métiers de service et le commerce.
Mais justement, c'est difficile de savoir qui a le statut d'artisan.
Oui, oui, justement. Et donc, par rapport à cela, si on prend la définition officielle de l'artisan, ben un artisan, c'est quelqu'un qui, généralement, est à la tête d'une entreprise de moins de 10 salariés, qui exerce à titre principal ou secondaire, donc une profession indépendante de production, de transformation, de répartition, de prestation de services. Et il faut que le métier qu'il exerce soit répertorié au répertoire des métiers qui a été défini par le Conseil d'État et qui répertorie à peu près 250 métiers comme étant des métiers artisanaux. Mmh. Donc c'est en ce sens où on va définir l'artisan. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment, donc en mettant l'accent sur cette situation de stress et d'abandon. Moi, j'aurais tendance aussi à regarder les choses sur une phase de temps beaucoup plus longue. Et ce que l'on pourrait souligner aussi, c'est que alors qu'on avait depuis des décennies, voire peut-être davantage, anticipé la disparition des petites entreprises et de l'artisanat, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, il représente la majorité des entreprises, il représente la majorité des emplois, et ils n'ont pas disparu. Et s'ils n'ont pas disparu, c'est pas parce que ils ont une forme de capitalisme, du passé, mais c'est parce que ils ont su s'adapter et innover hein, pour faire face à l'évolution de l'économie et de la société dans son ensemble. Donc moi, je serais moins pessimiste et je mettrais surtout l'accent sur la capacité d'adaptation et d'innovation de ces entreprises.
Une capacité d'innovation aujourd'hui, mais qui suit une vision des commerçants, des artisans, qui a longtemps été assez négative. Je voudrais vous en donner un exemple. En 1963, le réalisateur Chris Marker sort un documentaire intitulé « Le joli mai » dans lequel il donne la parole aux Parisiens. Extrait.
Est-ce que vous êtes heureux?
Est-ce que je suis heureux? Bah, quand j'ai vendu un costume.
Ah!
Quand j'ai du pognon dans la caisse. Quand il y a plein de pognon dans la caisse, alors là, ça va. Moi, ce qui compte, c'est le pognon.
Uniquement.
Vendre. C'est ça. La politique. Moi, la politique, c'est que je vis bien et que mes... Enfin, oui, si on dit qu'il faut que je sois libre et que mes enfants soient libres et que ma femme soit libre, c'est de faire de la politique. Enfin, ça, c'est déjà un autre sujet. Ça, on peut en parler des mois et des mois.
Enfin, je en parler, on peut faire des choses aussi. Est-ce qu'il faut faire de la politique?
De quelle politique?
Est-ce qu'il faut changer quelque chose?
Il faut que ce soit comme maintenant, il faut que ce soit représentatif. Il faut qu'on élise des parlementaires, et les parlementaires, ils votent pour vous, puis c'est tout. Puis quand vous avez besoin qu'on nous ouvre une contravention, on écrit Monsieur Le Pen ou Monsieur, je sais pas moi, Thorez, j'ai voté pour vous, vous pouvez pas demander la contravention que j'ai eue sur le bord du trottoir.
C'est un peu limité comme définition de la démocratie.
Ah non, non, des parlementaires qui vous défendent, puis c'est tout, quoi. C'est pas la peine, c'est pas la peine même un autre chose.
Rien de plus.
Rien de plus. Parce qu'il y a comme ça jusqu'à maintenant, si on n'a pas été si malheureux.
Voilà un extrait du Joli Mai, le documentaire de Chris Marker, qui a peut-être contribué à diffuser cette image négative des petits patrons. Mais ces représentations péjoratives sont en réalité plus anciennes, Olivier Thorez ?
Oui, je voulais simplement préciser que quand la personne s'exprimait et qu'elle a parlé de Thorez, c'était Maurice Thorez, c'était pas moi.
Oui, vous faites bien de le préciser.
Alors, c'est depuis longtemps, si vous voulez. Quand on lit, par exemple, l'histoire de France de Michelet ou le peuple de Michelet, on se rend compte que Michelet parle des artisans, des commerçants, mais il porte un nom chez les historiens, c'est le bourgeois. Autrefois, l'indépendance était le bourgeois. Et on voit bien que d'ailleurs, c'est véhiculé un peu de la même manière dans l'analyse marxiste. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
On va entendre un texte de Marx, en effet.
Ah ben d'accord, ben voilà. Mais d'ailleurs, Sophie Boutillier a beaucoup travaillé sur ces questions-là également. Et donc, effectivement, cette image du petit patron exploiteur est restée collée à leur peau pendant très longtemps. Mais ça, cette image, elle change aujourd'hui. Et la révolution, on pourrait même la dater avec la parution d'un livre qui a été un best-seller, c'est « Small is Beautiful » de Schumacher, un Américain, et qui montre, et ça va dans la thèse qui a été dite tout à l'heure par Sophie Boutillier, c'est le renouveau de la PME. Alors, les PME ont toujours existé, hein, 99,84% des entreprises en France sont des PME. Mais si vous voulez, la société de service, la tertiarisation, a donné, je dirais, de nouveaux crédits et un avantage concurrentiel aux PME. Je dirais qu'aujourd'hui, l'image de la PME est beaucoup plus sympathique. Et je terminerai sur ce point. Quand vous regardez, vous savez, chaque année, vous avez les institutions auxquelles les Français font confiance. Eh bien, systématiquement, l'institution numéro un, ce sont les PME.
Alors on va venir effectivement à cette transformation de l'image des PME dans un temps plus récent. Mais d'abord, Sophie Boutillier, il faut expliquer que les commerçants, les artisans sont vus par les théoriciens classiques et néoclassiques de l'économie comme un frein au progrès.
Bah, disons que oui, tout à fait. Bah, par exemple, hein, Marx qui disait que il tournait à l'envers de la roue de l'histoire, hein, et que le capitalisme va vers la grande entreprise et le développement du salariat. Mais je dirais aussi que justement, si on, enfin, je ne sais pas si j'anticipe, hein, par rapport au plan de votre émission, mais je voulais parler justement de la vision de Marx, hein, pas du marxisme, mais de Marx par rapport à ses petits moyens, si j'ose les appeler.
Alors Sophie Boutillier, je vais vous laisser développer sur Marx, mais je voudrais simplement vous faire entendre avant, effectivement, cet extrait du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, publié en 1848. Le progrès de l'industrie, dont la bourgeoisie est le porteur sans volonté propre et sans résistance, substitue à l'isolement des ouvriers résultant de leur concurrence, leur union révolutionnaire par l'association. Ainsi, le développement de la grande industrie sape sous les pieds de la bourgeoisie le terrain même sur lequel elle a établi son système de production et d'appropriation. La bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. De toutes les classes qui, à l'heure actuelle, s'opposent à la bourgeoisie, seul le prolétariat est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclitent et disparaissent avec la grande industrie. Le prolétariat, au contraire, en est le produit le plus authentique. Les classes moyennes, petits industriels, petits commerçants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie pour sauver leur existence de classe moyenne du déclin qui les menace. Elles ne sont donc pas révolutionnaires mais conservatrices. Bien plus, elles sont réactionnaires. Elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire.
Thank you.
Voilà, Sophie Boutillier, c'est notamment ce texte de Marc qui contribue à ancrer cette image des petits commerçants, petits artisans comme une classe conservatrice, voire réactionnaire.
Oui, bah, tout à fait. Puis bon, c'est l'image aussi. Enfin, ça entre aussi dans le schéma de Marx, hein, donc de la succession des modes de production, comme on est passé du féodalisme au capitalisme et qu'on passera après au mode de production socialiste puis communiste, hein. Et donc par rapport à ça, oui, c'est la classe ouvrière qui apparaît comme étant la classe qui apportera le changement et qui permettra donc à la société d'évoluer. Ça, c'est clair, c'est bien présent dans l'analyse de Marx. Mais d'un autre côté, vous avez aussi un autre aspect dans la théorie de Marx qui est le concept de petite production marchande. Et donc, dans le Capital, et notamment dans un chapitre inédit du Capital, il développe ce concept en disant que c'est une forme de production ahistorique qu'on trouve aussi bien dans la société féodale que dans la société capitaliste, et qui, en quelque sorte, s'adapte à s'insère à l'évolution, à l'économie telle qu'elle se présente à un moment donné. Et donc, par rapport à ça, je dirais que donc, bien sûr, il y a deux aspects dans ce que vous avez développé. Il y a l'aspect, disons, classe ouvrière comme étant, et donc ça, c'est plutôt le Marx politique de force de transformation de la société. Et puis, de l'autre côté, une analyse un petit peu plus subtile que je qualifierais plutôt d'économique plutôt que de politique, où il s'intéresse justement au rôle que peut jouer cette petite production marchande, donc ces petits entrepreneurs, ces petits commerçants, etc., un petit peu comme tampon entre la grande entreprise et la classe ouvrière, dans la mesure où ce sont aussi, on observe une accélération, enfin une augmentation de la création de petites entreprises dans les phases de crise économique et de chômage, surtout au 19e siècle où l'assurance chômage n'existait pas et où donc créer un petit commerce était aussi un moyen de conserver un moyen d'existence, comme on le trouve aussi aujourd'hui. Je dirais que aujourd'hui, avec l'auto-entrepreneuriat, ça redevient de cette façon-là, ou comme on le peut le constater dans bon nombre de pays en développement.
Donc la vision de Marx à l'égard des sur les petits commerçants artisans n'est pas aussi négative qu'on pourrait le croire avec ce texte. On vous a bien compris, Sophie Boutillier, mais cette vision d'une classe, d'entrepreneurs appartenant en quelque sorte à une économie du passé, à une économie plus traditionnelle, cette vision-là, elle a eu des répercussions concrètes sur les politiques publiques, puisqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est la grande entreprise Fordis qui est censée relancer l'économie et non pas les petits entrepreneurs.
Oui, exactement. Mais en même temps, et là on a des travaux d'historiens relativement récents qui sont très intéressants à ce sujet-là, en 1948, il y avait 1 million d'entreprises artisanales en France. Donc, ce qui est rapporté à la population de l'époque était considérable. Et si on observe de façon, on va dire, relativement globale, l'évolution la création d'entreprises artisanales entre les années 50 et 70, eh bien, on va plutôt dans le sens de la stagnation et non pas du déclin. Donc, le petit commerce, la petite entreprise reste une force économique d'appoint fondamental, parce qu'il ne faut pas oublier que, certes, les grandes entreprises se développent, on met l'accent sur les économies d'échelle, etc., etc., ce qui est bien sûr un élément fondamental. Mais de l'autre côté, je ne vais pas dire que le petit commerce et la petite entreprise, c'est l'armée industrielle de réserve, un rôle de tampon en fonction, disons, des différentes phases que l'activité économique peut traverser. Enfin, c'est mon analyse de la situation.
Et cette vision négative explique, selon vous, Olivier Torres, qu'aujourd'hui encore, les petites entreprises, les petits entrepreneurs souffrent d'un manque de reconnaissance, d'un manque de représentation?
Oui, vous savez, l'histoire de la Ve République en France, la PME n'a jamais eu qu'un secrétariat d'État au PME, c'est-à-dire en gros une administration sans administration. Alors aujourd'hui, on a Alain Griset, qui est quand même un ministre délégué, mais la représentation de la PME, elle est très affaiblie. Et je voulais simplement compléter ce qu'a dit Sophie Boutillier tout à l'heure. Pour moi, il y a quatre conceptions de la PME dans l'analyse marxiste. La PME est arriérée. N'oublions pas que Marx était fasciné par le capitalisme et par la division du travail d'Adam Smith. Deuxième conception, la PME est dominée. Et là, c'est la loi de la concentration croissante. Et donc, troisième conception, du coup, comme elle est dominée, le petit patron, le petit artisan peut être un allié pour la révolution. Mais quatrième conception, c'est un allié instable. C'est le terme de Lénine. Ou la classe oscillante. Là, je cite Mao Tse-tung. Et donc, on voit bien que la PME, c'est la classe moyenne. Et le marxisme, la première phrase, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte des classes. Et pour qu'il y ait une lutte des classes, il vous faut des riches et des pauvres. Or, la PME, c'est la classe moyenne. Et la classe moyenne, ça les rend dingues, les marxistes.
Mais des alliés peu fiables, Olivier Thorez, aussi parce que les patrons de PME ne parviennent pas à s'unir. Il y a une inertie de l'action collective du côté des petits patrons.
Oui, vous avez raison. On a entendu tout à l'heure François Asselin, la CPME. Mais vous avez aussi l'UPA et l'UNAPL qui ont fondé aujourd'hui l'U2P, qui est l'Union des entreprises de proximité. Et on voit bien que très souvent, les patrons de PME commerçants, ils s'identifient d'abord à leur métier. C'est la sociologie des professions qui permet de les comprendre. Par exemple, un libraire, c'est un libraire. Un vendeur de chaussures, c'est un chausseur. Si vous prenez les agriculteurs, entre un producteur de charolaises ou éleveur de charolaises ou un producteur laitier, ils sont certes agriculteurs, mais ils sont différents. Et donc, on voit bien qu'il y a un émiettement des organisations professionnelles qui est très, très fort. Et du coup, ça nuit à l'unité politique de ce monde qui est très hétérogène. Et pourtant, et je termine sur ce point-là, c'est que pour moi, il y a des points communs entre l'agriculteur, le commerçant, l'artisan et même le professionnel libéral. C'est d'abord la proximité. C'est une économie de proximité. Moi, j'ai passé une partie de ma vie à théoriser l'importance de la proximité dans le management des PME, quelle qu'elle soit. Et deuxièmement, c'est la patrimonialité. C'est-à-dire que c'est le patron patrimonial. Je dirais même le patron patrimonial patriotique. J'ose dire ça parce que c'est la même racine.
C'est-à-dire le patron qui possède son appareil de production.
Et oui, et qui est très attaché au territoire où il est, le quartier, la rue, sa clientèle. D'ailleurs, les patrons de PME ne disent jamais le mot marché. C'est un concept d'économiste. Les patrons de PME, quels qu'ils soient, ils disent mes clients, ma clientèle. Et ils sont sur un rapport de proximité qui est quotidien. Et ça crée des différences fondamentales.
Sophie Boutillier, sur ce manque de visibilité, alors ce manque de représentation politique et peut-être aussi manque de visibilité dans les médias et aussi dans la théorie économique. On a le sentiment que les grandes théories du management sont surtout valables pour les grandes entreprises, mais qu'elles tendent à oublier les PME.
Oui, puis pour revenir sur la conversation précédente et sur justement l'hétérogénéité du mouvement, enfin entre guillemets, de la représentation des petits et moyens patrons, bah là aussi il faut remonter dans le temps parce que si le statut au sens officiel du terme de l'artisan naît dans les années 20, c'est aussi à ce moment-là que vont se constituer les organisations professionnelles qui vont donc représenter ces petits patrons avec deux tendances fondamentales. Une tendance qui est plutôt pro-Proudhon, qui met l'accent justement sur les petites activités et sur le métier, mais qui ne met pas, disons, de barrière par rapport au nombre de salariés maximum que l'entreprise est susceptible d'employer. Et puis de l'autre côté, une autre orientation qui est plus libérale et qui, là, va davantage mettre l'accent sur l'indépendance de l'activité donc de l'artisan ou du petit entrepreneur et qui considère que il faut mettre aussi une limite par rapport au nombre de salariés maximum qu'un artisan est susceptible d'employer. Et ça, il y a eu, aujourd'hui, c'est 10 personnes maximum, mais dans le passé, ça a énormément varié.
En tout cas, on a aujourd'hui le sentiment que les choses bougent, puisque de nombreux élus font pression en faveur des petits commerçants, on l'a vu, puis les difficultés de ces derniers sont largement relayées dans les médias. Est-ce que c'est lié au fait que les petites entreprises françaises connaissent un retour en force depuis les années 80? On répond à cette question dans un instant.
Des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons,
des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon, avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne toute l'année, avec des moutons, des cochons, des oignons, des lampions, des voisins, des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des bergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou rousses et mal élevées.
Nino Ferrer, je vends des robes sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, suite de notre discussion sur les petits entrepreneurs qui payent un lourd tribut à la crise actuelle. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Sophie Boutillier et Olivier Torres. Alors la théorie économique, on l'a dit, a longtemps fait peu de cas des petits entrepreneurs, mais on observe un tournant dans la discipline à partir des années 70-80, à un moment où la croissance ralentit dans les pays riches, Sophie Boutillier.
Oui, oui, exactement. Et tout à l'heure, Olivier Torres faisait référence à Smallies Beautiful, qui au début des années 70 marque vraiment, disons, un changement, d'attitude vis-à-vis de la petite entreprise, même si ça se traduit pas forcément dans les faits. Mais je dirais aussi que c'est peut-être lié au développement d'un chômage structurel qui perdure depuis cette période. Et si on s'intéresse justement aux mesures de soutien à la création d'entreprises, eh bien, on peut constater que au fil des décennies, on a, disons, un éventail, de profils de plus en plus diversifiés à qui on propose de créer une entreprise pour s'insérer sur le marché du travail. Mmh. Les jeunes, bon, autrefois on était jeunes jusqu'à 18 ans, maintenant on est jeunes jusqu'à 30 ans. Les femmes. Les personnes âgées, les immigrés, les handicapés, un éventail de profils à qui on dit créez votre entreprise.
Et ça s'est traduit récemment avec ce lancement en septembre d'un fonds de placement par l'État pour que les épargnants investissent dans les PME et les start-up. Olivier Torres, oui. Il y a eu une réhabilitation des PME et une prise de conscience de leur grande capacité d'adaptation à partir des années 70.
Oui, et je voudrais, devant les auditeurs, habiliter trois noms, Michel Marchenet, Henri Mallet de Bollandel et Pierre-André Julien, je rajouterai Colette Fourcade, qui sont quatre universitaires français et québécois qui ont été parmi les premiers à théoriser l'importance des PME dans les années 80. Et ces auteurs que je viens de citer, que je voulais honorer, sont inconnus du grand public, mais si certains sont intéressés par leurs travaux, allez les lire, parce que c'est à partir de la fin des 30 Glorieuses, de la fin de ce qu'on appelait d'ailleurs le Fordisme. Regardez le mot Ford. C'est un nom de grande boîte. Quand on parle de Toyotisme, c'est encore la grande entreprise qui fait modèle. Quand on parle d'Uberisation, Uber, c'est encore une grande entreprise. Et quand on parle à longueur d'antenne des GAFA, on parle tout le temps des géants.
Alors que du côté des PME, on voit qu'il y a cette capacité d'adaptation qui leur a permis de se spécialiser dans des secteurs parfois très pointus.
Mais bien sûr, et c'est parfois même en restant petites, en refusant la croissance, qu'elles ont réussi à rester, je dirais, performantes et à un avantage concurrentiel, ce que Michel Marchenet appelle d'ailleurs le modèle d'hypo-firme, par opposition à l'hyper-firme. Mmh. Et c'est vrai que très souvent, les politiques publiques, les banquiers veulent financer de la croissance, on est toujours à vouloir faire de la croissance, mais parfois, l'artisan, il peut se tuer à réussir en étant trop grand, parce qu'il ne maîtrise plus le tour de main, il perd de vue, je dirais, le sens artisanal de son métier. Et beaucoup de PME vivent et vivent bien parce qu'elles savent rester petites.
Mais alors on peut parler d'un retour en grâce du modèle schumpeterien de l'entrepreneur comme moteur du capitalisme. Désormais, l'entrepreneur est valorisé notamment à travers la start-up, Olivier Torres.
Alors, moi j'aime bien les start-up parce qu'effectivement on en parle beaucoup. Mais je dirais, la start-up, elle a tout d'une grande. Et j'aimerais que quelqu'un puisse me donner les chiffres officiels du nombre d'emplois dans les startups. Celui que j'ai aujourd'hui, c'est environ 60 000 emplois. Alors, je vous ai dit tout à l'heure à l'antenne que la PME en général, c'est 10 millions d'emplois. Donc, je dirais que la startup, elle est intéressante à analyser parce qu'elle est un peu à la pointe de l'innovation, mais pour moi, elle ne saurait à elle seule être l'archétype de la PME en général.
On peut quand même souligner l'importance des startups parce que dans l'actualité, évidemment, on voit que dans les recherches sur le vaccin contre la Covid-19, elles sont très présentes, notamment l'allemande BioNTech ou l'américaine Moderna. Sophie Boutillier, sur ce changement de regard sur les entrepreneurs et sur la place qu'ont prise les petites entreprises, notamment dans le secteur technologique.
Oui, oui, tout à fait. C'est un élément très important. Mais par rapport à ça, moi, j'ai une vision un petit peu différente des choses parce que je pense qu'il ne faudrait pas considérer que les petites entreprises sont, disons, dans leur coin, sous une espèce de bulle, sans rapport ni avec la société dans laquelle elles sont insérées, ni dans l'économie. Et si le rôle et la place des petites entreprises a été reconnu à peu près depuis 30 ou 40 ans, c'est aussi parce que la grande entreprise s'est transformée. Vous parlez des startups, mais par rapport à ça, on pourrait aussi développer le concept d'innovation ouverte, de décentralisation. Par exemple, si je prends les secteurs d'activité, les métiers dans lesquels il y a eu le plus de création d'entreprises artisanales en 2018, c'est dans les taxis, mais bon, ça. Mais aussi, deuxième point, c'est dans le nettoyage de bâtiments. Et donc ça, c'est bien une activité aussi qui est due à la sous-traitance, à la décentralisation d'un certain nombre de fonctions, comme par exemple donc les fonctions de nettoyage qui étaient assurées autrefois en interne par les entreprises et qui sont maintenant, y compris dans la fonction publique, par exemple, déléguées à des entreprises extérieures. Donc je pense que il est très important d'analyser ce phénomène du retour de la petite entreprise de façon globale, en regardant aussi comment se transforme la grande entreprise dans un contexte aussi où de précarisation de l'emploi salarié et de remise en cause de l'emploi salarié.
Alors il y a eu effectivement une preuve de la capacité d'adaptation de ces petites entreprises au cours des dernières décennies, mais il y a évidemment des progrès qui restent à faire, notamment on commençait à en parler en termes de numérisation. Dans ce reportage réalisé par Anne-Laure Jumet pour France Culture, plusieurs commerçants essayent de vendre par Internet, mais pas toujours avec le succès espéré.
J'ai mis un petit message pour les temps de confinement. Je précise aux gens comment faire. Voilà, et je précise bien, vous voyez, nous sommes là pour vous, ne faites pas l'affaire des grands du numérique. On se met d'accord avec les clients, on fixe une heure de rendez-vous et ils viennent récupérer le produit à la porte. Ils n'ont pas le droit de rentrer. Et s'il fallait que je me déplace à domicile chez un particulier, je le ferais. Tout est bon à prendre. On ne doit pas passer à côté de certaines ventes.
Moi, j'ai fait un truc Instagram, là, un compte Instagram avec toutes les photos. Je n'ai pas un seul appel. Il n'y a personne. Mais est-ce que vous voulez nous mettre, nous, les petits, au niveau de Amazon et de tous ces gros trucs qui ont des moyens insoupçonnables? Moi, les chaussures que les gens veulent acheter dans un magasin comme ça, c'est essayer. Se regarder dans le miroir, toucher le cuir, voir la couleur, c'est pas des choses qu'ils vont acheter sur Internet, les clients d'ici. Pas du tout.
La numérisation peut être une chance pour les petits commerçants, Olivier Torres, mais à condition de maîtriser les technologies en question.
Oui, oui, ou de faire appel à des experts. Ça peut être parfois tout simplement les enfants ou les plus jeunes qu'on a autour de soi dans ses familles respectives, qui sont parfois beaucoup plus futés et beaucoup plus affûtés pour pouvoir faire ça. Et je trouve que c'est bien parce que même s'il y a un exemple qu'on a entendu et qui semble dire ben j'ai rien eu, ça veut dire quand même que les commerçants se mettent dans une démarche proactive. Et je crois que la pire des choses, ce serait de perdre la foi en quelque sorte. Et donc peut-être que Instagram n'était pas le bon réseau, peut-être que le bon réseau c'est LinkedIn ou Facebook.
Et il faut dire en l'occurrence, la Confédération des petites et moyennes entreprises a noué un partenariat avec Facebook pour aider les commerçants à basculer en urgence vers des solutions digitales.
Exactement. Et tous les réseaux consulaires, CCI, CMA, Chambre d'agriculture, ont aujourd'hui des services qui aident et qui épaulent les indépendants pour cette politique de numérisation.
Sophie Boutillier, sur cette nécessaire transformation qui ne pourra peut-être pas concerner tous les petits commerçants et artisans.
Oui, a priori, c'est une évolution tout à fait intéressante. Bon, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, hein, compte tenu à la fois, disons, des compétences, hein, sur le plan informatique, hein, que demande ce type d'adaptation, et peut-être aussi, bon, peut-être moins l'achat du matériel qui a plutôt tendance à diminuer. Mais en même temps, bon, bah, si vous parlez de Facebook, bah, c'est une grosse entreprise, c'est une multinationale, hein, donc on en revient toujours à cette idée, à cette interpénétration, je dirais, interrelation entre le monde de la grande entreprise et de la petite entreprise. Du reste, c'était Rosa Luxembourg qui, dans son livre « L'accumulation du capital » en 1913, disait que il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais d'économie entièrement dominée par des grandes entreprises et par les salariés. Ça n'existera jamais. Et donc, ça veut dire aussi que, justement, le système économique a besoin de cette... je ne sais pas si on doit l'appeler une espèce de bouée de sauvetage ou bouteille d'oxygène, mais c'est une façon de pouvoir fonctionner de manière beaucoup plus flexible. C'est ce que disait déjà aussi Alfred Marshall, hein, où il disait que, en gros, on avait une économie de grandes entreprises reposant sur les économies d'échelle et la production de masse, et puis de l'autre côté la petite entreprise qui disons elle a une petite entreprise justement de proximité, de quartier, enfin ne dit pas de proximité, hein, c'est moi qui paraphrase, et qui là aussi répond aux besoins d'une clientèle locale, fait facilement crédit aussi aux personnes qui en ont besoin. Et c'est aussi par la petite entreprise que l'innovation, enfin les choses ont changé peut-être depuis, se développe dans l'économie. Donc moi je vois pas les choses de façon monolithique, mais plutôt, bon, bien sûr il y a un rapport de force, bien évidemment, hein, toutes n'ont pas les mêmes ressources, mais les grandes entreprises se servent des petites entreprises.
Et on a besoin des PME et on en prend conscience de plus en plus, nous dites-vous, Sophie Boutillier, et ça se traduit, Olivier Torres, par le fait que la part du secteur privé a augmenté à l'Assemblée nationale en 2017. Aujourd'hui, il y a davantage de députés qui sont eux-mêmes des petits patrons. Ça, c'est un signal fort, selon vous ?
Oui, c'est pas anodin. Effectivement, il y avait très très peu de représentants des travailleurs non salariés dans la législature précédente. Et effectivement, on peut supposer que la présence d'artisans, de commerçants, d'entrepreneurs, de libéraux va aussi orienter le travail parlementaire en ce sens-là. Je voudrais dire un mot sur la distinction entre les PME et les grands groupes. Je vous ai dit que j'étais PMiste, mais je ne suis pas opposé non plus aux grandes entreprises. Et je pense que le danger serait de dire que les grands sont des méchants et les petits des gentils. Ça, c'est la dérive poujadiste. Et vous avez raison de dire qu'il y a des complémentarités. Alors, Sophie a très opportunément parlé de l'externalisation des grands groupes. Ça serait presque la théorie du déversement. Mais on peut aussi rajouter ce que j'appellerais la théorie du fondement. C'est que j'ai des tas d'exemples qui montrent que certains grands groupes fonctionnent de manière flexible grâce à l'externalisation des PME. Et s'il n'y avait pas parfois le recours à des sociétés de communication, des sociétés de pigistes, des sociétés de sous-traitance, eh bien, beaucoup de grands groupes seraient aujourd'hui très, très en difficulté pour suivre les contours de l'évolution de l'économie. Donc, il y a bien une symbiose entre les PME et les grands groupes. Toutefois, elles sont très différentes.
Mais alors aujourd'hui, on peut se poser la question de cette aide de l'État qui est dirigée vers les grandes entreprises comme vers les petites et moyennes entreprises. Mais est-ce que c'est le rôle de l'État de soutenir les petites structures alors que c'est en contradiction avec l'esprit d'indépendance qui les anime ? On peut poser la question, Olivier Torres.
Vous avez raison. C'est vrai que la question de la liberté, même conditionnelle, est quand même un des éléments très importants qui guide le monde de la PME. Hein. D'ailleurs, on dit les indépendants. On parlait du régime social des indépendants. Et la notion d'indépendance est très importante. Alors, moi, je crois que le rôle de l'État doit être effectivement un élément protecteur, comme c'est le cas quand on est dans une situation de crise. L'État fait des aides et des prêts garantis qui seront remboursés un peu plus tard. Mais effectivement, l'État, sauf à changer radicalement d'économie, ne peut pas se substituer en permanence à l'initiative individuelle, ou alors on changerait véritablement de régime. Donc vous avez raison, ça serait effectivement, je pense, contre-productif.
Mais ce que veulent aujourd'hui les petits commerçants, c'est surtout de pouvoir rouvrir leurs portes, et notamment de pouvoir le faire le vendredi 27 novembre, c'est le jour du Black Friday, où les plateformes de commerce en ligne vont proposer des promotions massives. Ce serait un signal fort envoyé aux petits patrons de les autoriser à rouvrir à ce moment-là, Sophie Boutillier?
Oui, oui, bien sûr. Ce serait vraiment un événement extraordinaire. Mais je pense que c'est plutôt une question de pression politique à ce niveau-là, parce que, la situation sanitaire est telle aujourd'hui. Mais d'un autre côté, dans un entrepôt d'Amazon où vont se côtoyer différents individus, il me semble que la promiscuité est aussi forte que dans des petits commerces ou même dans un supermarché où on va faire régulièrement ses courses. Donc je pense que à ce niveau-là, la question me semble plutôt presque plus politique que sanitaire.
Et en tout cas, évidemment, à suivre l'évolution de la crise sanitaire et voir si c'est possible. Mais alors, vous nous dites plus politique que sanitaire. Olivier Thorez, vous partagez ce point de vue et je vous laisserai conclure là-dessus.
Oui, moi je pense que de toute façon, la politique, c'est la vie de la cité. Et je pense depuis longtemps qu'il faut remettre un peu l'entrepreneur au centre du village. Autant je suis fonctionnaire d'État, mais je me dis que la figure de l'entrepreneur, homme-femme, est une figure d'avenir parce que politiquement, si vous regardez bien, la PME est beaucoup plus inclusive. Je veux dire par là que une femme, 32% des dirigeants sont des femmes. Regardez parmi les dirigeants de CAC 40, je crois qu'il n'y en a qu'une. Un jeune diplômé peut être à la tête d'une PME. Un immigré peut être à la tête d'une PME. Un sans diplôme peut être à la tête d'une PME. Et donc oui, je veux croire que la politique publique d'avenir sera de passer, je dirais, d'une politique d'entrepreneuriat à ce que j'appellerais un entrepreneuriat politique.
Un entrepreneuriat politique. Eh bien, on va finir là-dessus. Un grand merci à tous les deux, Olivier Thorez, Sophie Boutillier, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Les références de vos ouvrages respectifs sont à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission. Je renvoie les auditeurs aussi à l'interview réalisée ce matin par Guillaume Werner avec Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019, qui s'est exprimée sur la question de la concurrence des grandes plateformes et de la nécessité de protéger les petits commerces. Merci beaucoup à tous les deux.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
SpaceX, première entreprise privée à transporter des astronautes dans l'espace pour un vol commercial. 10 ans après le premier lancement de ses fusées, c'est une victoire industrielle pour l'entreprise d'Elon Musk et ce que l'on appelle le New Space. Mais pour qui brille vraiment le marché des étoiles ?
Eh bien, vous vous en doutez, pour SpaceX d'abord, qui se place comme le premier fournisseur de fret et d'humains de la NASA et d'autres agences spatiales et qui démontre son efficacité industrielle, puisqu'après d'innombrables déboires, y compris une faillite évitée de justesse, son modèle de lanceur low cost très utilisable, la Falcon 9, est considéré comme fiable. Cette stratégie d'intégration verticale complète, une sorte d'antifusée Ariane, a permis à SpaceX de réduire les coûts de lancement de 30 voire 40% par rapport à ses concurrents. Recherche de compétitivité drastique puisque depuis juin, l'entreprise récupère en plus du lanceur les carénages des coiffes, 6 millions de dollars d'économisés en plus. Pourtant, Tiffaine, rares sont ceux qui, tel le médiateur de la Cité de l'Espace dans Le Parisien, se risquent à prédire une nouvelle économie des vols habités en dehors du marché institutionnel. Et SpaceX court d'ailleurs toujours le risque d'une surévaluation financière. Ces 36 milliards de capitalisation correspondent à 30 fois ses revenus annuels, un décalage raide, dit Forbes, c'est-à-dire rare.
Alors c'est le reflet d'années de doutes quant à la rentabilité de SpaceX ou quant à l'extension d'un nouveau marché spatial privé.
Bon, ce qu'il y a de nouveau dans le New Space, c'est la conjonction entre un saut technologique et une demande croissante de services spatiaux, déferlement schumpeterien de start-up plus ou moins grosses, explique l'économiste chez BNP Paribas Thomas Murchery. Une révolution, même renchérie dans Capital, le chercheur à l'Institut Thomas More Sébastien Leck, qui en détaille les piliers. D'abord, un besoin d'applications liées aux satellites, l'agriculture, la robotique, la sécurité, une législation ou des législations plutôt favorables aux partenariats public-privé. Ensuite, des taux d'intérêt bas qui stimulent l'investissement risqué à long terme. SpaceX vient d'ailleurs de signer un contrat de 2 milliards de dollars pour fournir à une entreprise ce qui doit devenir la première station spatiale privée avec 1000 emplois à la clé. Dans 8 ans, selon le cabinet Accenture, le marché du New Space atteindrait 485 milliards de dollars, bien plus que l'aviation commerciale, plus que le transport logistique terrestre. Mais c'est vrai que tout l'enjeu du financement privé reste de pouvoir en capter les retombées, 4 ou 5 dollars ou euros pour un investi, dit Thomas Murchery. Or, l'année dernière, 90% des revenus des industriels privés provenaient encore des États, rappelait le directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Xavier Pascaud, sur France Culture.
Reste l'exploitation minière. La poule aux œufs d'or spatiale a été découverte cette année et elle vaudrait plus que le PIB terrestre.
Ah, vous êtes bien informé, Tiffen, c'est Psyché 16, un astéroïde qui a fait les gros titres parce qu'il est fait d'alliages métalliques rares et qu'au prix du nickel, il vaudrait 10 puissance 24, soit 10 quadrillions de dollars, mais il faudrait 7 ans pour faire l'aller-retour. Même chose pour la Lune, ne me la demandez pas, le marché est estimé à 100 milliards de dollars en 2050, il est tout aussi prometteur, mais il se heurte aux mêmes limites logistico-techniques, dira-t-on, et pour l'instant, la ruée vers l'or lunaire, comme l'appelle le monde, consiste surtout en une préemption juridique de la part des États-Unis.
En fait, la véritable mine d'or du New Space serait beaucoup plus proche et banale. Ce sont tout simplement les données.
Alors là, c'est même déjà le post-New Space, affirment les officiels du CNES à la Tribune, un agrandissement de l'économie du spatial, disent-ils, où les grands acteurs ne sont pas seulement les constructeurs de véhicules, mais ceux capables de maîtriser toute la chaîne de valeur, explique Sophie Collier dans le journal Le Monde, c'est-à-dire l'infrastructure au sol, les lanceurs, les satellites, les fournitures d'accès. Le modèle est encore incertain. Certes, Microsoft vient d'investir dans Starlink, qui est la constellation de satellites pour l'Internet haut débit de SpaceX, mais OneWeb, l'autre concurrent, n'a été sauvé de la faillite cette année que grâce à un rachat pour moitié par le gouvernement britannique. Et puis si 70% des lancements sont privés, 75% du marché satellite est gouvernemental, souligne encore le cabinet Accenture. Reste à voir aussi, termine Sophie Collier, si comme le GSM avec le téléphone satellite, la 5G terrestre ne va pas couper l'herbe sous le pied du GSM orbital, comme quoi dans l'espace les fusées vont vite mais la roue tourne lentement.
Merci beaucoup Xavier Martinet et merci d'allier chaque jour pour nous poésie et économie. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho.
Up in a heat wave, and everybody's gone. My body can be always stayed up until the dawn. Take me close out of you, boy. So we're forever one. I see the cards, chariots, but we don't wanna kill someone.
C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. Demain, on s'intéressera aux livreurs à vélo, chauffeurs de VTC et travailleurs du CLIC. Sont-ils de vrais indépendants ou des salariés cachés des grandes plateformes? Réponse demain à partir de 14h. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. So if we're the one, another's gonna be